Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 9 juin 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Le président burundais Pierre Nkurunziza est décédé lundi d'un arrêt cardiaque, a annoncé le gouvernement qui a ouvert une semaine de deuil national. Le mandat du président Nkurunziza devait prendre fin le 20 août après la prestation de serment du nouveau président élu Évariste Ndayishimiye. George Floyd, tué il y a 2 semaines à Minneapolis, a reçu un dernier hommage de milliers de personnes avant ses obsèques aujourd'hui à Houston, dans le Texas. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Le président burundais Pierre Nkurunziza est décédé hier à l'âge de 55 ans, a annoncé la présidence. Son décès est survenu à l'hôpital du cinquantenaire de Karoutsi suite à un arrêt cardiaque. Le point avec Nani Talani.
Selon un communiqué du gouvernement, le chef de l'État avait passé l'après-midi du samedi à assister à un match de volley-ball à Ngozi dans le nord du Burundi. Dans la nuit, il a senti un malaise et s'est rendu à l'hôpital Karoutsi dans l'Est pour se faire soigner. Il y a été hospitalisé dimanche, son état de santé s'était amélioré et il s'était même entretenu avec des personnes qui étaient à ses côtés. Hier, dans l'après-midi, son état de santé s'est brusquement aggravé avec un arrêt cardiaque. Une équipe de médecins a tenté pendant plusieurs heures de le réanimer avec une assistance cardio-respiratoire. Mais l'équipe médicale n'a pas pu empêcher la mort de Pierre Nkurunziza. Au pouvoir depuis 2005, M. Nkurunziza avait décidé de ne pas se représenter pour un 4e mandat. L'annonce de sa candidature en 2015 à un 3e mandat avait plongé le Burundi dans une crise profonde et meurtrière. Son héritier, le général Évariste Ndayishimiye, a été déclaré vainqueur à la présidentielle. La passation de pouvoir était prévue en août, à la fin du mandat de M. Nkurunziza.
Pierre Nkurunziza présidait aux destinées du Burundi depuis 2005. Avant cela, il était le président du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Sa candidature à un 3e mandat en 2015 avait plongé le pays dans une crise politique qui a fait plus de 1200 morts et contraint 400 000 Burundais à l'exil. Bagassi Koura a joint à Paris André Guichawa, spécialiste des Grands Lacs.
C'est un homme qui a fortement marqué l'histoire récente du Burundi dans la période post-accord à Arusha. Il a occupé les fonctions les plus éminentes alors qu'il n'était pas forcément celui qui était spontanément le plus attendu. Il a engagé le Burundi dans une politique de rupture avec le passé militaire. Il l'a fait le cadre d'une politique qui a souvent été perçue comme une revanche, avec une prise de contrôle du pouvoir qui a inversé les formes de domination.
Il est aussi connu comme étant celui qui a plongé son pays dans la crise par sa décision de se représenter pour un 3e mandat.
Ça, c'est la date fatidique de son mandat. Une erreur politique, à mon sens, grossière, mais bon, il en a décidé ainsi, et il a effectivement fait basculer le Burundi dans une crise et dans une période de tension politique qui prévaut encore. Et ça, je pense que c'est l'élément qui restera de son mandat.
Il avait aussi surpris l'opinion en décidant de ne pas se représenter. Vous aviez été aussi surpris?
Dans un premier temps, oui, mais c'est vraisemblablement une décision page ou imposée qu'il a dû prendre. Je pense que, comme beaucoup, même y compris au sein de sa propre formation, Je pense que ça a été une décision simple, même si les élections ont prêté à discussion quant à leur organisation, quant à la proclamation des résultats. Mais là encore, je pense qu'il a été démontré que le peuple burundais a su réagir avec calme, avec patience et avec maturité malgré les difficultés qui prévalaient.
Le sociologue André Gichawa est spécialiste de la région des Grands Lacs en Afrique. Human Rights Watch a déclaré, je cite, « Sa mort met en évidence l'urgence pour les nombreuses victimes de connaître la vérité sur les crimes commis pendant sa présidence et ainsi que les responsables. Tant que ces abus resteront impunis, ce sombre héritage pèsera sur le Burundi pendant de nombreuses années à venir », a déclaré Lewis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale de Human Rights Watch. Pour une analyse, Arzuma Compaoré a joint Ismaël Diallo, dernier représentant de l'ONU chargé des droits de l'homme au Burundi.
Ce que beaucoup retiennent, et surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays, c'est le pouvoir personnel, c'est une sorte de dictature et d'omerta. C'est ce qu'on pourrait appeler des escadrons de la mort également. Alors voilà un autre exemple de la prétention des hommes et de la vanité des hommes. Il avait des projets, tout le monde a des projets, et il n'aurait jamais fini ses projets, même s'il le présidait ce pays pendant 50 ans, il ne finirait jamais ses projets. Alors il faut simplement savoir faire le maximum que l'on peut faire en bien et pour tout le monde, et attendre son heure, sans penser qu'on est indispensable.
Qu'est-ce que sa mort subite va entraîner comme conséquence sur l'univers politique au Burundi?
Espérons qu'il y ait de l'intelligence pour qu'il n'y ait pas de querelle interne et qu'il n'y ait pas de déstabilisation. Espérons que le nouveau président, puisse lui-même apporter beaucoup d'intelligence dans la gestion du pays.
Ismaël Diallo, dernier représentant de l'ONU chargé des droits humains au Burundi. En République démocratique du Congo, la police a effectué des tirs de sommation pour disperser des manifestants en colère contre la fermeture du marché central de Kinshasa depuis fin mars pour cause de coronavirus. Selon des manifestants, une personne a été tuée par balle. Le décès est dû à l'électrocution d'un manifestant qui fuyait, selon les autorités, précisant qu'une enquête est en cours.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les funérailles de George Floyd ont débuté ce mardi à Houston, au Texas, 15 jours après la mort de cet Américain noir asphyxié par un policier, ce qui a suscité des manifestations dans tous les États-Unis. C'est l'heure de célébrer sa vie, a lancé la pasteur Mia Wright dans l'église bondée Fountain of Praise, où ses proches se sont d'abord étreints devant son cercueil ouvert. Philip Crawford, journaliste à Associated Press, se trouve à Houston.
Houston était la dernière opportunité pour le public de saluer la mémoire de George Floyd. Ce lundi, son cercueil doré a attiré des milliers de personnes en deuil dans cette église de la ville où il a grandi. Sa mort, il y a deux semaines, continue d'alimenter les manifestations aux États-Unis et au-delà à cause de l'injustice raciale. Les services commémoratifs ici à Houston ont attiré les familles des victimes noires dans d'autres meurtres de haut niveau dont les noms sont restés dans l'histoire des États-Unis. Notamment Eric Garner, Michael Brown, Ahmaud Arbery et Trayvon Martin. Les personnes en deuil portaient des t-shirts avec l'image de Floyd ou le texte « Je ne peux pas respirer », les mots que Floyd a utilisés à plusieurs reprises alors qu'un policier de Minneapolis le clouait au sol. Beaucoup ont attendu des heures pour rendre leur hommage. Certains avaient rencontré Floyd dans le quartier pauvre où il a grandi et d'autres ont voyagé pendant des heures où sont arrivés d'autres États. Les personnes en deuil devaient porter des masques pour éviter la contagion au coronavirus et se tenaient à 2 mètres de distance. L'ancien vice-président Joe Biden a rencontré lundi la famille de Floyd. Biden a tourné une vidéo pour les funérailles ici ce mardi. Des services commémoratifs antérieurs ont eu lieu à Minneapolis et en Caroline du Nord, près du lieu de naissance de George Floyd. Philip Crowder pour VOA Afrique à Houston.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le gouvernement algérien a autorisé certains commerces à rouvrir. Cette première phase de réouverture concerne les agences de voyage et immobilières, les entreprises du secteur du bâtiment et travaux publics, les coiffeurs pour hommes, non pas pour femmes, les artisans, les fast-foods, uniquement la vente à emporter, les galeries d'art, les boutiques de sport, de jeux, de jouets, ainsi que les pâtisseries. Tous les commerçants sont tenus de respecter les strictes mesures de prévention. Les compagnies aériennes reprennent lentement leurs services, mais risquent de se confronter au remboursement des primatifs auxquels elles ont recouru pour ne pas sombrer, avertit l'Association du transport aérien international. Sur 123 milliards de dollars d'aide étatique, 67 milliards devront être remboursés. Le montant de la dette du secteur s'élèvera à près de 550 milliards de dollars, soit une augmentation de 28%. Cela pourrait entraîner la chute de plusieurs compagnies aériennes, dont certaines sont déjà déclarées en faillite, comme South African Airways et Comair en Afrique. Pour terminer, le géant pétrolier britannique BP va supprimer d'ici la fin de l'année 10 000 emplois dans le monde, soit 15% de ses effectifs, afin de s'adapter à un marché pétrolier frappé par la chute du prix du baril. La majorité de ces suppressions d'emplois concernera des salariés dans les fonctions administratives, mais aussi un tiers des hauts dirigeants. BP a perdu 4,4 milliards de dollars au premier trimestre.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Football pour commencer. Les joueurs du Valence CF ont posé un genou à terre à l'entraînement en soutien au mouvement antiraciste Black Lives Matter. Une première en Espagne. Le Valence CF veut montrer publiquement qu'il condamne le racisme avant de débuter la session d'entraînement de ce mardi, a indiqué le Valence CF dans un communiqué. Sur une photo, on voit les joueurs poser un genou à terre au centre de la pelouse d'entraînement pour former un V. L'équipe du Valence CF a formé un V pour rappeler les valeurs du club, tolérance, éducation et solidarité, principe immuable pour lutter contre le fléau que représente le racisme, a précisé le club espagnol. Le Valence CF, éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions par l'Atalanta Bergame cette saison, est la première équipe du championnat d'Espagne à effectuer un tel acte de solidarité. En athlétisme, le meeting de Zurich, annulé à cause du coronavirus, se tiendra le 9 juillet à distance avec plusieurs grandes stars de l'athlétisme mondial, Alison Félix, Noah Lille, Christian Taylor, Dalila Mohamed, Shaune Müller-Uibo, Ekaterini Stefanidi, André Degrasse, Omar McLeod, Jimmy Vico, entre autres. Ce meeting, qui devait initialement accueillir les finales de la Ligue de Diamants en septembre, réussit tout de même à attirer des grands noms pour une compétition inédite que les athlètes disputeront à distance dans leur pays de résidence. Trois équipes, États-Unis, Europe et le reste du monde, s'affronteront sur 8 épreuves, 4 féminines et 4 masculines, à raison d'un athlète par équipe et par épreuve. Les organisateurs annoncent un show télévisé de 90 minutes avec des épreuves classiques, perche, triple saut ou d'autres peu disputées comme le 300 mètres haies. Basketball, la NBA va autoriser ses 30 franchises. Les 22 concernés par la reprise de la saison le 31 juillet à Orlando et les 8 autres écartés a recruté des joueurs durant une fenêtre courte allant du 22 juillet au 1er juillet. L'objectif est de permettre aux équipes qui rejoueront cet été d'élargir leur effectif limité à 15 joueurs en cas de blessure ou de test positif au coronavirus au cours de la dernière partie de saison à terminer. À ce titre, selon la télévision ESPN, les équipes pourraient recruter autant de joueurs qu'elles le souhaitent, lesquels ne pourront être que ceux ayant participé à la saison NBA, à un camp d'entraînement ou évolué en J-League. Les anciens joueurs NBA tels Jamal Crawford, convoités, mais qui n'avaient pas de contrat cette saison, et les joueurs évoluant à l'étranger ne pourront pas être recrutés.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. C'est aujourd'hui que George Floyd est enterré à Houston. Le cercueil de l'Afro-Américain tué par un policier à Minneapolis est arrivé dans la matinée à l'église Fountain of Praise dans la métropole texane où il a grandi. Les pompes funèbres l'ont porté dans le bâtiment où est prévue une cérémonie d'obsèques privées. À son passage, des policiers ont formé une haie d'honneur. Bagassi Koura a joint Aristide Sidibé, un administrateur scolaire d'origine malienne habitant Houston, qui parle de l'ambiance dans la ville.
Le funéral, d'abord, ça se fait à une église qui est à Houston, qu'on appelle la Fountain of Praise. C'est pas loin de là où son frère habite à Missouri City. Et la police, d'abord, quand son cortège funèbre a atterri à l'aéroport, l'autre jour, la police a escorté le cortège funèbre. Aujourd'hui, l'enterrement se fait à Pearland, qui est d'ailleurs mon quartier, c'est pas loin de là où j'habite. Donc, la police a fait des barricades et permet aux gens de venir observer la procession jusqu'au cimetière. La ville est calme. Et les gens sont vraiment focusés sur le fait que c'est un funéral. Il n'y a pas de grande manifestation en cette justice.
Est-ce qu'après les funérailles, là, d'autres manifestations sont prévues?
Bon, comme je vous ai dit la fois dernière, Houston, il y a certainement des manifestations, mais dans le sens que ces manifestations vont pousser les autorités à prendre des mesures dans le sens de l'entente entre les différentes communautés, bien sûr, mais je n'anticipe pas des manifestations où il y aura des casses ou même des exactions. Non, je n'anticipe pas ça du tout.
Et quand vous regardez ces deux semaines de manifestations, vous sentez là une grande différence avec ce que vous avez pu vivre par le passé?
Bon, la différence, c'est d'abord le crime. Hein? C'est pas explicable. Hein? C'est pas du tout explicable. Donc, il y a une très grande différence dans le sens que tout le monde est fatigué de ce racisme. Et je crois que l'une des différences, c'est que dans le passé, c'est les victimes. Si je dis les victimes, la communauté afro-américaine ici, on a l'impression qu'on demande à ceux qu'ils se mettent à pardonner tout le temps. Okay? C'est bien de demander à quelqu'un de pardonner, mais c'est aussi bien pour ceux qui perpétrent ces actes d'attentat qu'ils changent.
Aristide Sidibé était joint à Houston, ici aux États-Unis. Pour une réaction sur l'affaire George Floyd, Arzuma Compaoré a joint Cheikh Tidiane Gadjo, ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères.
Ici au Sénégal, le gouvernement, la majorité en tout cas présidentielle, je crois que c'est une première en Afrique, a sorti une déclaration très forte de soutien à la communauté afro-américaine et au soutien à la famille de George Floyd, a déploré, a exigé des réformes dans le système politique américain, le système économique américain, le système institutionnel américain, pour que les Noirs puissent bénéficier de protection comme tout le monde. L'Amérique est un grand pays, il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est une très belle expérience, en 200 ans ils ont bâti la première puissance mondiale. Mais ça ne peut pas se faire sur les cadavres, les décombres de la communauté noire, esclavagisée dans les plantations, qui a contribué à l'industrialisation de l'Amérique, qui a bâti l'Amérique presque for free, comme on dit, sans rémunération, et se retrouver aujourd'hui maintenant massacré par la police dans des brutalités, c'est inacceptable. Il faut changer tout cela.
Alors, vous avez vécu un moment aux États-Unis, vous-même, vous avez probablement vu de premier plan cette question raciale américaine. On a l'impression que les Africains ici aux États-Unis ont un traitement un peu différent et ce qui crée souvent aussi des tensions vis-à-vis des Noirs américains. Vous avez eu ce sens-là?
Vous avez parfaitement raison de le dire. C'est un phénomène qui existe. Maintenant, c'est aux Africains d'être intelligents, d'être très sensibles aux valeurs du panafricanisme et de savoir que ces Africains américains comme les Du Bois, comme les Africains caribéens comme Marcus Garvey, comme les Africains caribéens comme Pat Moore, comme Sylvester Williams. C'est eux qui nous ont donné le panafricanisme. C'est eux qui ont déclenché pratiquement le combat qui a mené à la décolonisation de l'Afrique. Et ils nous ont supplié de nous unir, on ne les a pas écoutés. Kwame Nkrumah les a écoutés. Beaucoup d'autres leaders africains ne les ont pas écoutés. C'est pour ça que l'Afrique est aujourd'hui dans l'impasse. Moi, en tout cas, je les porte dans le cœur. Je les aime comme des frères, comme des sœurs. Et j'ai beaucoup de respect pour eux. Et je souhaite de tout cœur qu'il y ait une réunification symbolique du peuple africain dans sa composante afro-descendante comme dans sa composante d'Africains qui vivent dans le continent.
Cheikh Tidiane Gadjo est ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, la vaccination anti-Ebola a débuté à Mbandaka pour le personnel soignant et ceux qui ont eu des contacts avec des cas confirmés. La 11e épidémie d'Ebola dans le pays a été déclarée le 1er juin dans le chef-lieu de la province de l'Équateur. C'est la deuxième fois en 2 ans que le virus Ebola touche cette région du nord-ouest du pays. Eddy Issango a joint Mbandaka, le ministre de la Santé, Eteni Longondo.
Le donné d'hier, c'était 9 cas Ebola confirmés et puis 3 suspects. Donc nous avons 12 cas et parmi les 12, nous avons 6 décès. Maintenant, nous sommes en train de vacciner donc les gens qui ont été en contact avec le cas confirmé et aussi la population tout entière. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de vaccins et nous sommes en train de voir avec nos partenaires comment faire parvenir le vaccin ici en Mbandaka. Nous avons constitué plusieurs commissions. Nous avons une coordination de la lutte au niveau national et au niveau provincial. Dans la coordination provinciale, nous avons plusieurs commissions et ce sont ces commissions-là qui font le travail sur le terrain.
Et quelle quantité de vaccins avez-vous besoin? Est-ce que vous allez disposer de cela?
Oui. En tout cas, jusque-là, dans notre plan, on a besoin de 100 000 vaccins, en tout cas pour le moment, ici à Mbandaka, de 100 000 cures de vaccins.
Et de combien disposez-vous maintenant?
Sur place, nous avons 1 500 et puis il y a 8 000 qui arrivent et puis on verra comment on peut chercher d'autres.
Dans le passé, il s'est posé un problème d'acceptation du vaccin vu que les gens ont des conceptions. Je ne sais pas si
non, ici, il ne s'est pas posé un problème d'acceptation du vaccin. D'ailleurs, ce sont les gens eux-mêmes qui viennent chercher à être vaccinés.
Mais la maladie n'est pas circonscrite seulement à Mbandaka. Nous avons appris qu'à Bikoro, il y a 1 ou 2 cas.
À Bikoro, il y a un cas qui était décédé. Nous avons d'ailleurs depuis ce matin envoyé des vaccins là-bas aussi. Nous sommes en train de suivre aussi le contact de ces gens-là. C'est un cas qui est venu de Mbandaka.
Et comment vous y prenez-vous dans la mesure où il y a aussi la COVID-19 qui est aussi dans la province de l'Équateur? On a quelques cas, je crois, là-bas.
Oui, bon, il y a la COVID-19. Jusque-là, nous avons un cas, depuis 3 semaines maintenant. Le monsieur se sent déjà très bien. Nous sommes en train de tester aussi les contacts de ce monsieur. Et jusque-là, nous n'avons détecté aucun autre cas. Nous sommes en train de penser de plus en plus que c'était un cas isolé, qui est d'ailleurs venu de Kinshasa et qui n'a pas eu le temps de contaminer les autres.
Aujourd'hui, en RDC, on a dépassé les caps des 4 000 cas confirmés de personnes souffrant de la COVID. Est-ce que les gouvernement congolais pense avoir tout le moyen pour d'abord pouvoir dépister et aussi soigner ceux qui sont malades?
Nous avons évolué par rapport aux moyens. Nous sommes en train de faire un effort pour avoir beaucoup d'équipements de protection, surtout pour les personnels médicaux. Donc voilà, je ne peux pas dire aujourd'hui que nous avons 100% de moyens dont nous avons besoin, mais nous avons quand même un peu et nous sommes en train de nous débrouiller avec.
Eteni Longondo, ministre de la Santé de la RDC, était joint à Mbandaka dans la province de l'Équateur.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le pouvoir malien sous pression. Des milliers de manifestants ont déferlé dans les rues de Bamako à l'appel de l'influent imam Mahmoud Diko la semaine dernière pour exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ces manifestations se tiennent dans un contexte sécuritaire alarmant dans le centre du pays, mais aussi en pleine crise économique et sociale. Nous ferons le point sur la situation politique et sécuritaire au Mali avec nos invités ce jeudi 11 juin 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.
Au Nigeria, plus de trois mois après l'apparition du premier cas de Covid-19, Nollywood, la production cinématographique locale et l'industrie du divertissement ont été complètement bouleversées. Les salles de cinéma sont désertées par peur du virus, alors les artistes et le public se tournent vers le virtuel, opérant un changement majeur dans les habitudes du 7e art. Un reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Le confinement strict de la majorité de la population a provoqué un arrêt brusque et brutal de toutes les activités économiques au Nigeria. Peu de secteurs ont été épargnés. L'industrie du divertissement a été comme subitement étranglée. Pour empêcher la propagation du virus, les rassemblements de groupes ont été interdits, donc pas de cinéma, pas de concerts, pas de festivals et surtout pas de stades remplis pour les matchs de football, le sport roi dans ce pays. Beaucoup d'artistes ont été obligés de se mettre à l'heure de télétravail ou se sont tournés vers les réseaux sociaux pour amuser leurs fans. Jubo Samson est un comédien.
Je fais de mon mieux, même si je dis que j'en fais pas assez. Je poste quelques scènes de comédie pour mes fans et à mes clients sur les réseaux sociaux. J'essaie de rester en contact avec eux et de les rendre heureux. Et beaucoup m'apprécient et me disent « Waouh, vous avez fait ma journée et vous me faites oublier cette pandémie dans laquelle nous sommes ».
L'industrie cinématographique nigériane contribue incontestablement à la création d'emplois dans un pays dont l'économie dépend surtout du pétrole et de l'agriculture. Plus d'un million de personnes travaillent dans le secteur qui est aussi frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Les acteurs nigériens broient du noir et ne cachent pas leur amertume. Francis Duru est un acteur populaire du cinéma nigérian surnommé Nollywood.
La situation est vraiment grave pour nous parce que c'est ça notre vie. Tout ce que nous faisons, s'il n'est pas apprécié d'un public, vous êtes d'accord avec moi que ça devient un problème. Nous sommes coupés de notre audience qui est notre vrai soutien, la fondation dont tout créateur a besoin.
Pour d'autres, la pandémie du Covid-19 a offert l'opportunité pour beaucoup d'innovation et de créativité. Iwan Agbedameyo dirige une entreprise spécialisée dans l'organisation des événements culturels.
Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'événements virtuels. Beaucoup de réunions se tiennent sur Zoom. Les gens organisent leurs événements sur Zoom et cela a donné l'opportunité d'exploiter d'autres moyens qu'on croyait jusqu'ici impossibles.
Cependant, les artistes et le public nigérian sont-ils prêts à évoluer dans ces concepts de divertissement virtuel? Eze Timothée est informaticien et homme d'affaires.
Avec cette crise du Covid-19, certains hommes qui restaient dehors pendant longtemps seront obligés de retourner à la maison pour être avec leur famille, avoir du temps avec leur famille et se récréer à la maison et regarder tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Le changement est constant et maintenant qu'ils ont commencé, beaucoup finiront par s'adapter.
Un rapport du FMI publié en 2016 a montré que l'industrie du divertissement au Nigeria représente environ 4% du produit intérieur brut. Ce chiffre a augmenté chaque année avec la montée en puissance des salles de cinéma, des investissements dans le marketing et la distribution du contenu en ligne. Même Netflix, le géant mondial du film en ligne, a débarqué à Nollywood. Certes, le virtuel marche et rapporte gros, mais il faudra tôt ou tard se réveiller pour faire face à la dure réalité. Plus de la moitié des Nigériens vivent avec moins de 2 dollars par jour et ont d'autres urgences que le cinéma en ligne. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.